de l'extérieur, difficile d'imaginer ce qui se passe dans l'entreprise qui nous intéresse aujourd'hui. Située dans le Jura bernois, plus précisément à Sonsbeau, elle occupe un bâtiment moderne, couvert de fenêtres miroirs qui ne renvoie aux curieux que sa propre image. Une fois passée la porte d'entrée, une grande réception composée de plusieurs bureaux s'offre au regard. Je m'annonce, on m'installe dans une grande salle de conférence et après quelques minutes d'attente, le directeur arrive et m'invite à le suivre pour mener l'entretien dans son bureau. Le temps d'apercevoir une petite cuisine et nous voilà arrivés. La pièce est lumineuse avec une immense baie vitrée et le décor plutôt classique. Un bureau, quelques étagères remplies de classeurs, de livres et de petits appareils électroniques. Seule excentricité, un ballon Bugs Bunny accroché au coin d'un meuble. Après avoir découvert les lieux, je m'installe face à mon invité pour une discussion autour d'une petite table pour parler d'objets présents chez pratiquement tout le monde, les compteurs d'énergie. On passe ce soir de l'autre côté du miroir avec le directeur de Sontex, Olivier Carnal. Bonsoir.
Bonsoir.
Sortie de boîte, Alexandre Steiner.
Olivier Carnal, vous avez grandi à Berne avant de partir étudier la physique à l'école polytechnique de Zurich avec un doctorat à la clé. La science, vous avez toujours eu ça dans le sang?
Alors je suis né dans une famille académique à Berne. Alors d'abord je suis né à New York, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Après j'ai grandi à Berne dans une famille académique. Mon père était prof de mathématiques. Alors c'était clair que je cherchais quelque chose dans cette direction quand j'étais petit. Et j'ai décidé d'aller à Zurich au Poly pour étudier la physique. Mais je dois dire, j'étais pas quelqu'un qui bricolait chaque jour. Moi j'étais plutôt dans les sports ou dans la musique.
Vous avez ensuite passé 2 ans aux États-Unis pour travailler dans le domaine de l'optique quantique. Vous étudiez les photons. Qu'est-ce que vous gardez de ces années américaines?
Alors, je garde des nuits dans le laboratoire sans lumière, avec lampe de poche, parce qu'on avait des mesures extrêmement sensibles. Alors, on devait les faire pendant la nuit, sans lumière. Alors, on était là avec les cafards, et puis on cherchait les photons dans la nuit.
Alors ensuite, vous vous êtes éloigné des cafards. De retour en Suisse, vous travaillez dans l'industrie une quinzaine d'années, en gravissant les échelons petit à petit. Et en 2009, vous reprenez une start-up active dans le domaine des panneaux solaires flexibles. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer du rôle de chercheur physicien à celui de manager?
Alors après certaines années dans les laboratoires, j'ai senti que c'était beaucoup plus intéressant d'aller à la recherche de clients qui étaient prêts de payer quelque chose pour les services ou les produits qu'on a développés et qu'on a produits. Alors après plusieurs conférences où on a présenté les résultats, j'en avais un petit peu marre et j'ai décidé d'aller dans l'industrie, mais assez tard, j'avais déjà 30 ans quand j'ai fait ce pas. Après, plutôt été axé sur une carrière académique.
Vous êtes ensuite arrivé chez Sontex il y a 6 ans et demi comme responsable pour la technologie, puis comme directeur dès 2014, alors que votre vie était jusque-là plutôt du côté de Schaffhouse. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette entreprise et dans la région, le Jura bernois?
Alors c'est vraiment un vrai hasard. J'étais en contact avec un headhunter et puis je savais que le poste était dans la région de Bienne, sans savoir exactement où c'était. Et quand j'étais dans le deuxième round, j'ai appris que c'était à Sonsbeau, Sonval. Et puis pour moi, bien sûr, c'est une région très spéciale parce que mon père est de Tavannes. Je suis originaire de Petit-Val. Et comme ça, je me rappelais bien sûr de toutes mes journées qu'on a passées à la gare de Sonsbeau pour aller de Berne à Tavannes. Mais c'est vraiment du pur hasard que je suis arrivé ici. Mais le poste est très intéressant. C'est une société d'une belle taille, et puis c'est ça qui m'a attiré.
Une belle taille, 140 employés, donc pour vous un retour aux racines en quelque sorte. Alors on l'a dit, vous êtes directeur depuis 2014, mais l'histoire de Sontex remonte à plus loin, 30 ans pour être précis. Et si on remonte encore un peu plus loin, tout a commencé dans une autre société, Sonsbeau SA. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé, cette genèse de Sontex.
Alors, les débuts se sont passés dans les années 60, probablement autour de ma naissance. Alors, il y avait un petit groupe, un département qui s'occupait des calorimètres, des appareils qui mesuraient la chaleur. Et après quelques années au sein de Sonsbeau, les directeurs ont réalisé que c'était pas le bon endroit pour se développer. Alors, ils ont décidé de donner la possibilité à 2 fondateurs de fonder leur propre société, la Sontex. Monsieur Hermic et Monsieur Chaland, qui sont toujours encore très proches de notre société.
Alors, une société qui voit vraiment le jour en 89, quelles sont les phases qui ont marqué son histoire depuis?
Je vois trois phases. Il y a eu la première phase, la phase de croissance dans les années 90. On se rappelle, en 89, les frontières européennes se sont ouvertes. Alors il y avait tout à coup des marchés en Pologne, en Tchéquie, en Roumanie qui étaient inaccessibles et ces marchés avaient besoin d'appareils pour mesurer l'énergie. Alors ça a été bien sûr une grande possibilité, une grande chance aussi pour Sentex de croître. Après ces premiers 10 ans, il y a eu la phase d'industrialisation, réduction des coûts, grande série, bonne qualité. Je pense que c'est la phase de 2000 à 2013-14. Et puis maintenant, cette phase que moi je mène en ce moment, c'est surtout la différenciation, l'élargissement de la gamme de produits, entrer dans de nouveaux marchés.
Alors une différenciation qui est aussi liée un peu au contexte économique. Ces dernières années ont été un peu difficiles, une dizaine de licenciements l'an dernier. Est-ce qu'aujourd'hui la situation est stabilisée chez Sentex ?
Oui, la première fois qu'on s'est vu, M. Steiner, c'était en 2018, c'était la crise chez nous. C'était une année très difficile, 2018, mais je pense que maintenant nous sommes dans une phase de croissance. On a quelques marchés qui font vraiment du plaisir. On a le Canada qu'on a pu acquérir avec un partenaire. Il y a l'Allemagne qui se développe très bien. Et on a des détecteurs de fumée qui ouvrent de nouvelles portes. Alors, en ce moment, je suis plutôt positif pour l'avenir.
Donc positif, on l'a dit en introduction, on va s'intéresser un peu aux produits. Vous produisez des compteurs d'énergie de manière un peu plus poussée. Quel type de produit vraiment vous proposez ? Qu'est-ce qui sort de chez Sentex ?
En général, on peut dire que tous nos produits sont axés direction mesure d'énergie et puis économie d'énergie thermique. Nous avons des appareils qui s'appellent des compteurs d'énergie, des appareils qui mesurent vraiment l'énergie avec le flux thermique d'une eau chaude. On a des répartiteurs qui sont montés sur les radiateurs, qui mesurent en indirect, en mesurant la température du radiateur. Et autour de tous ces produits, nous avons développé aussi de nouveaux produits qui sont aussi communicants avec radio. On a des modules radio pour des compteurs d'eau et des détecteurs de fumée. Pour permettre d'offrir une gamme complète pour les appartements.
Donc on parlait avant de l'histoire de l'entreprise, au niveau des produits, il y a aussi une grande évolution pendant ces 30 années, vous le dites, avec des objets connectés aujourd'hui.
Oui, le mot-clé en anglais c'est Internet of Things, IoT. Les gens s'attendent à des produits qui communiquent leurs données avec une fréquence une fois par heure, pour suivre l'évolution de l'énergie, pour pouvoir optimiser aussi leur bâtiment. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Là, on passait une fois par an pour aller lire les compteurs ou les répartiteurs, et puis on allait noter ça sur une page blanche. Maintenant, aujourd'hui, on a des systèmes qui font la relève à distance. Les données sont poussées sur des serveurs, et on a accès directement aussi à ces données via l'ERP de l'entreprise. Alors c'est vraiment un très grand changement qu'on a vu pendant ces dernières 30 années.
Alors ces évolutions technologiques, on y reviendra par la suite. Tout le développement et l'assemblage de vos solutions se passent dans vos locaux à Swansbourg. Vous les avez fait visiter à Nadia. On écoute son reportage.
Sortie de boîte.
Nous sommes maintenant dans le département du développement. Ici, nous avons des ingénieurs qui construisent, soit en mécanique ou en électronique, les nouveaux produits. Et c'est ici aussi que les nouveaux produits sont testés pour être sûr qu'ils tiennent les promesses. Nous sommes maintenant dans le petit laboratoire du développement. Nous avons quelques fours et quelques éléments électroniques. Et nous mettons les produits dans ces fours qui sont chauffés jusqu'à 100 degrés. Pour vraiment assurer que les produits tiennent le coup. Nous sommes maintenant dans le petit groupe d'industrialisation. Ces ingénieurs développent les machines que nous utilisons finalement en production. Et la machine qu'on voit ici devant nous, c'est une machine pour produire le nouveau calculateur de haute gamme. On a un laser pour faire le marquage et on a différents postes pour tester les courants et la performance du produit. Vous voyez un sol qui est gris, c'est un sol qui est conducteur. Nous devons assurer que tous nos collaborateurs qui touchent les composants électroniques soient bien mis à la terre, parce que chaque charge qu'une personne pourrait amener pourrait détruire les composants électroniques. Nous sommes maintenant auprès de la ligne qu'on appelle une ligne SMD. C'est une ligne de montage de composants électroniques. Ce qu'on voit, on a une machine de sérigraphie, deux machines de posage et un four. Et avec cette ligne que nous avons ici, on peut produire des millions de répartiteurs ou des centaines de milliers de compteurs d'énergie chaque année. Alors, ce qu'on voit, ces machines sont des machines très, très rapides. Ça nous permet de monter ces millions de composants par an. Alors, ce que je tiens dans mes mains, c'est une plaque verte, partiellement conductrice. Et on voit sur cette plaque les composants, les puces, ici en noir. Ça, c'est un composant intelligent. Nous avons l'antenne d'un répartiteur de frais de chauffage. Nous avons une puce qui fait la communication radio. Nous avons des composants qui mesurent la température du radiateur. Et tous ces éléments amènent leurs informations au microprocesseur central qui, lui, fait le calcul, qui, lui, transmet après les données à l'antenne pour permettre à une personne qui se balade autour du bâtiment d'aller lire la consommation de chaque appartement ou chaque radiateur. Ici, nous nous trouvons à l'assemblage des répartiteurs de frais de chauffage. On retrouve nos circuits imprimés avec les puces déjà montées et déjà testées. Et ce qui est fait ici à ce poste de travail, c'est le montage de la pile qui alimente ce circuit imprimé et le montage de la sonde du radiateur. Ce circuit imprimé, il est monté dans le boîtier en plastique qu'on n'avait pas encore vu avant. Nous sommes ici en face du contrôle final de nos répartiteurs. Et à chaque position, un test est fait pour garantir que le produit qui sort finalement de cette machine soit impeccable, qu'il mesure vraiment l'énergie correctement. Alors ce qui est aussi un élément très important dans nos produits, c'est la personnalisation. Chaque client veut voir son logo sur la face avant du produit. Et nous avons investi dans des systèmes laser pour graver la surface avec le logo. Alors je profite de cette visite ici en logistique pour vous montrer le plus grand compteur d'énergie que nous produisons. Il permet de mesurer un débit d'un demi-mètre cube par seconde. Ça veut dire qu'on pourrait remplir une baignoire en une seconde. Alors ici, dans notre installation de la pompe à chaleur, on voit vraiment pourquoi nous faisons tout ce travail. C'est pour mesurer l'énergie, pour finalement économiser l'énergie. C'est cet aspect écologique qui me motive chaque jour de venir travailler chez Sontex.
Sortie de boîte.
Olivier Carnal, vous le dites, vos produits permettent des économies d'énergie. Quel est le potentiel dans ce domaine?
Alors, il y a très peu de chiffres concrets. Ce qu'on entend de nos clients, c'est que si on visualise ou met à disposition la consommation réelle, les consommateurs économisent entre 20 et 30 %. Alors normalement, une personne en Suisse utilise entre 200 à 1000 francs par an pour chauffer son appartement. Alors si on parle ici de 30 %, on peut rapidement économiser quelques centaines de francs par an.
Dans le reportage, vous parlez aussi de machines permettant de produire des centaines de milliers, voire des millions de pièces par année. C'est devenu indispensable dans ce domaine, l'automatisation?
Oui, je suis toujours confronté chaque jour. Il y a des collaborateurs qui me posent la question, est-ce qu'il vaut vraiment automatiser? Est-ce que ça ne va pas enlever des postes de travail? Moi, je dis toujours, pour être compétitif, il faut avoir les grandes quantités. Les grandes quantités sont seulement possibles avec une grande automation. Et on essaye, bien sûr, après, de faire des produits plus personnalisés avec la main-d'œuvre. Et comme ça, on peut vraiment aussi offrir de nouveaux postes à des personnes ici de la région.
Donc, pour vous, c'est possible d'automatiser sans forcément licencier en parallèle? Ça ne va pas forcément de pair, c'est parfois l'impression qu'on a ou l'idée qu'on s'en fait.
Oui, absolument. Mais je peux simplement revoir ces dernières années. On peut dire qu'il y a ces dernières 10 années, on a triplé les quantités, on a investi beaucoup dans l'automation et en même temps, on a vu beaucoup plus de personnes qui travaillent en production, triplé à peu près. Alors, je pense que c'est faisable de faire l'automation et en même temps avoir plus de personnes qui travaillent chez nous.
Alors, c'est ce que vous m'avez dit lors de notre rencontre, que l'humain aura toujours sa place dans l'industrie. On ne peut pas avoir que des machines. Pour quel type de tâches, justement, chez Sontex, quelles sont les tâches que vous ne pouvez pas remplacer par des machines?
Alors, bien sûr, il y a la partie développement, la conception de nouveaux produits, discuter avec les clients quels sont les besoins pour le monde de demain. Je pense que c'est très difficile à confier ça à une machine. mais je pense aussi en production, c'est très important d'avoir des personnes qui sont consciencieuses, qui voient les défauts, qui puissent réagir très rapidement. Et bien sûr, il y a des produits qui sont très complexes, qu'on ne saura jamais automatiser. Et là, je suis très heureux d'avoir des personnes, des collaborateurs qui viennent travailler chaque jour pour avoir du succès avec Centex.
Alors maintenant qu'on a fait connaissance avec vos produits, on va s'intéresser un peu à ceux qui les achètent. Quel type de clientèle est-ce que vous ciblez ?
Oui, on voit plusieurs marchés. Il y a certainement le marché des propriétaires ou de gérants d'immeubles. Qui aimeraient savoir ou facturer aussi l'énergie consommée. Après, il y a les entreprises de facturation qui font surtout ce job. Ils installent les appareils, ils viennent chercher ou collectionner les données, puis ils envoient les factures. Mais il y a aussi des nouveaux clients, comme des fournisseurs d'énergie qui veulent avoir un grand compteur pour mesurer l'énergie qui est produite dans leur système. Un chauffage à distance, par exemple.
Et vous me l'avez dit, certains achètent vos produits, et, enfin, on l'entendait dans le reportage, vous pouvez les graver au laser, faire des produits avec différents noms. Donc ça veut dire que vos produits, sur le marché, ne sont pas forcément identifiés comme étant Sontex.
Oui, je vois plusieurs tendances en ce moment. Alors, une tendance, c'est cette digitalisation, que les données sont toujours disponibles très rapidement, mais une autre grande tendance, c'est cette personnalisation, que chaque client aimerait reconnaître son produit avec son logo. On pourrait faire aussi un répartiteur RGB, par exemple, hein, qu'on pourrait installer ici. Mais je pense que cette personnalisation, pas seulement le logo, mais aussi les paramètres, la forme, la couleur, je pense que ce sont des éléments qui font que son texte puisse se différencier.
Finalement, si le nom n'apparaît pas sur le produit, est-ce que ça ne vous dessert pas, finalement, parce qu'on voit quelque chose, on se dit « Ah ben tiens, c'est cette marque », et en fait, on ne se dit pas que c'est forcément son texte derrière.
Oui, c'est toujours une grande discussion. Nous ne sommes malheureusement pas dans l'industrie horlogère ou l'industrie des automobiles, où le branding est très très important. Nous sommes plutôt dans l'industrie d'appareils, de mesures qui sont cachées de toute façon, quelque part dans la cave ou dans un petit cabinet. Pour cela, le brand est important, mais pas essentiel pour avoir du succès.
Vous avez peu de concurrents en Suisse, mais vous en avez en Allemagne, au Danemark. Qu'est-ce qui vous permet de vous démarquer sur le marché européen, où les produits sont souvent moins chers ?
Oui. Alors bien sûr, nous ne sommes pas les moins chers, ça il faut dire. Comme entreprise suisse, je pense aussi qu'on bénéficie du Swiss Made. On peut vraiment dire qu'on produit des produits de haute qualité. Mais je pense qu'il y a deux, trois éléments techniques qui font la différenciation. Nous sommes les seuls à produire un compteur d'énergie statique qui s'appelle Superstatique, où on n'a pas de pièces qui bougent. Et on a un système radio qui est bidirectionnel, qui a une très haute performance. On peut aller lire les appareils à très grande distance. Et je pense qu'on est une petite société, nous sommes très flexibles, nous sommes ouverts aussi de faire des choses que peut-être les grandes entreprises, les grands concurrents n'arriveraient pas ou n'aimeraient pas le faire.
Cet écosystème connecté, c'est vraiment vers là que vous vous dirigez, c'est vraiment là-dedans que vous voulez développer votre spécificité ?
Oui, absolument. Alors on a notre système radio Sontex bidirectionnel, mais on a aussi des systèmes ouverts. On a des systèmes qui s'appellent LoRa, avec une très grande portée, quelques kilomètres. Surtout des systèmes qui sont intéressants pour des grandes villes. Avec quelques antennes, on peut lier tous les systèmes. Par exemple, la gestion de places de parc, gestion de vélos, gestion de poubelles. Et puis on peut ajouter le système pour la lecture d'énergie thermique.
Alors, comme de nombreuses entreprises, hein, vous cherchez à vous diversifier. Cela passe notamment par la production aussi de détecteurs de fumée. C'est un peu votre nouveau marché. En quoi c'est intéressant pour vous ?
Alors c'est surtout intéressant pour nos clients. Comme j'ai dit, certains de nos clients sont des spécialistes dans les services dans la domotique. Et jusqu'à présent, ils n'ont que pu offrir des services de facturation. Maintenant, en même temps, ils peuvent offrir des services, la maintenance des détecteurs de fumée. Alors, ils peuvent assurer que le détecteur de fumée qui a été installé dans l'appartement fonctionne parfaitement en cas d'incendie. C'est les clients qui sont venus chez nous pour nous demander ce produit que nous avons ajouté à la gamme. C'est pas notre idée, je dirais.
Vous réfléchissez aussi à vous lancer dans les compteurs d'eau. Votre but, c'est de pouvoir mesurer tout ce que consomme un bâtiment.
Ça sera très difficile, mais je pense que c'est un des buts d'élargir la gamme. Alors bien sûr, il y a des détecteurs de monoxyde de carbone. Il y a la qualité de l'air. Ce sont tous des éléments qui pourraient être rajoutés aussi à notre gamme. Je pense que c'est certainement une des pistes pour nous développer. Et puis, on verra dans 10 ans si on a du succès avec ça.
Pour faire une comparaison avec le grand public, est-ce que, en quelque sorte, vous voulez être les Apple des compteurs avec son propre écosystème où finalement, une fois qu'on est dedans, il faut avoir du son texte pour que tout marche ensemble?
Oui, ça c'est le rêve de chacun, de faire un système Apple, un système son texte que personne ne peut échapper. Malheureusement, la concurrence est très grande et nos clients sont normalement plus grands que nous. Alors, nos clients nous poussent dans des systèmes ouverts ou standardisés. On a ce système qui s'appelle Open Meter Standard, OMS, qui est très fortement répandu maintenant ici en Europe. Et nous sommes forcés d'offrir aussi des systèmes ouverts. Alors, malheureusement, nous n'avons pas la puissance d'Apple pour faire un système qui nous permet de gagner tous les clients.
Olivier Carnal, on arrive déjà au terme de cette émission. Avant de se quitter, une dernière question. On l'a dit tout à l'heure, son texte fête son 30e anniversaire cette année. Vous avez prévu de marquer le coup du côté de Sonsbeau?
Oui, absolument. La date est en principe le 1er novembre, mais c'est un petit peu tard dans l'année. C'est pour ça que nous avons décidé d'ouvrir nos portes le 21 septembre, samedi 21 septembre, ici à Sonsbeau-Sombval. Alors tout le monde est cordialement invité. Il n'y aura pas seulement des tours d'usine, mais il y aura aussi un petit peu quelque chose à manger et à boire. Et on se réjouit de montrer nos produits, notre usine et nos collaborateurs.
Eh bien, le rendez-vous est pris. Olivier Carnal, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous souhaite une excellente soirée.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Et de notre côté, on passe de la mesure thermique à celle du temps avec Marie-Lise Saillard et sa chronique horlogère.
Pile à l'heure.
Portez votre sac de frappe ou votre punching ball, aujourd'hui ça va cogner. Et je ne parle pas du soleil, hein, même si en ce moment ça cogne aussi de ce côté-là. Dans cette chronique, on a déjà parlé de sportifs qui deviennent ambassadeurs d'une marque horlogère, de sportifs qui participent à l'élaboration d'une montre, footballeurs, apnéistes notamment, mais jamais encore nous n'avions parlé de boxeurs. L'homme en question, c'est Vasyl Lomachenko. Il est ukrainien et ce n'est pas n'importe qui. Amateur, il a été champion d'Europe, champion du monde, champion olympique. Ensuite, il est passé professionnel, champion du monde des poids plumes WBO en 2014, 2015, champion du monde des poids super plumes en 2016, 2017, 2018. Fin 2018, il a réunifié les ceintures WBA et WBO, les poids légers, et les a conservées cette année en avril.
Hi everyone. I'm beginning to train for my next fight.
Vasyl Lomachenko, ce n'est pas n'importe qui, il est surnommé le Picasso de la boxe.
Ceci est un tableau de révolte, un véritable cri de honte.
L'horloger Christophe Claret s'est déjà inspiré de l'univers de la boxe en 2013. Il est parti de ce constat au cours d'un match de boxe. Il y a un gong au départ, la cloche qui annonce les rounds. Il a donc décidé de marquer le départ d'un chronomètre par un son. C'est le modèle Cantaros. Et ce modèle en a donné un autre qui vient de sortir après collaboration entre les deux hommes. Modèle appelé Loma. Loma, c'est le surnom de Vasyl Lomachenko. Cette montre a un cadran jaune et bleu, les couleurs du drapeau ukrainien. L'inscription laquée jaune Loma figure sur le bracelet en alligator bleu. Les décalques des ceintures sont sur le fermoir et l'inscription Round est gravée en super luminova jaune sur le poussoir à 2 heures. La montre Loma sera vendue en série limitée de 20 pièces et disponible sur les marchés dès le mois de septembre. Espérons que le prix ne nous mette pas KO.
Pile à l'heure.
Sortie de boîte, c'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, vous serez en compagnie de Nancy Chapuis. Elle accueillera la clinique du Noirmont et son directeur Martin Zuber. D'ici là, excellente semaine à toutes et à tous.
Sortie de boîte.